En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques a lancé une série de colloques internationaux sur le thème de la guerre et de la société. Le 17 et le 19 janvier 2013, grâce au soutien de la Fondation Simone Cino del Duca, abritée au sein de l'Institut de France, une vingtaine de participants se sont réunis autour du thème spécifique de la guerre et de la politique, le premier volet d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui durera 3 ans. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication d'Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et directeur d'études à l'EHESS. Son intervention s'intitule « La Russie tsariste et la guerre ».
Notre président, qui est un homme sagace, a compris qu'après les deux très savantes expositions de qu'on a eu tout à l'heure, il fallait un moment de détente et de gaieté. Et moi qui repassais la pérésina dans le bon sens depuis bien longtemps, je vais profiter de cette récréation pour vous raconter quelque chose sur... C'est une improvisation sur le sujet qui est la guerre et la Russie. N'est-ce pas ? C'est bien ça.
C'est bien ça.
Alors écoutez, je vais mettre mes réflexions en sur 6 points, non 5, les théâtres de guerre, le but de la guerre en Russie, les moyens de la guerre en Russie, 3, quatrièmement, les crises du système de guerre et c'est ce qui s'est passé, enfin les influences sur la société, et puis c'est tout. Alors, la Russie, elle s'est battue sur plusieurs théâtres. D'abord, les Tatars l'ont attaqué. Les Tatars, c'est des peuples turco-mongols, c'est la même civilisation, c'est des peuples semi-nomades qui utilisent la cavalerie, j'en reparlerai. Ils attaquent le peuple russe, qui est un peuple sédentaire, paysan, qui vit dans une bande à peu près entre la frontière du royaume de Pologne-Lituanie et un peu plus loin à l'est, mais pas beaucoup plus loin à l'est. C'est une bande assez étroite. Et c'est là que les Tatars attaquent. Et ils s'appellent Polovst, ils s'appellent Petcheneg, ils s'appellent Khazar, ils s'appellent Tatar ou Mongol, quelquefois. Bon. Et ça dure de 915, première attaque des Petcheneg contre Kiev, et 1571, quand le camp Guirey, venu de Crimée, prend Moscou. Ça fait une distance quand même entre la Crimée et Moscou. Ben, il se faufile, il prend Moscou et la brûle à peu près totalement. Deuxième théâtre, la Turquie. Alors la Turquie, ça c'est un os, c'est un adversaire extrêmement dur, et bon, il y a eu plusieurs grandes guerres. L'une a failli faire disparaître Pierre le Grand. Il y a l'adversaire de la Turquie, mais qui est redoutable aussi pour la Russie. Ou plutôt, la Russie l'attaque. C'est la Perse. Hein. Et entre les deux, les tribus du Caucase, très, très nombreuses, musulmanes, et qui font une guerre à peu près permanente depuis le début ou la fin du XVIIIe siècle et aujourd'hui. Vous avez un moment extrêmement important, c'est une date qu'il faut garder à l'esprit, c'est la prise de Kazan sur la Volga par Ivan le Terrible. C'est à peu près son seul succès, mais c'est une grande date de l'humanité parce que le mur tatar qui empêchait le peuple russe de s'étendre à l'est a sauté. Et Pierre le Grand a converti les chefs tatars du coin pour garder leur territoire, se sont convertis. Il les a mis dans la noblesse russe, dans le système nobiliaire russe. Il s'est considéré lui-même comme d'une double légitimité, la légitimité byzantine qu'il avait pris avec la suite du mariage de la dernière paléologue avec un grand prince russe, et les Tatars dont la capitale était Saraï, sur la basse Volga, et c'est la double légitimité, si vous voulez, d'Ivan le Terrible. Et si vous voyez le Kremlin, vous verrez qu'il est à la fois byzantin et tatar. Et donc, il descend de Saraï comme de Constantinople. Puis après ça, vous avez les guerres avec l'Occident. Ça, c'est évidemment les principales. Et enfin, la Chine, puisqu'il a commencé à attaquer la Chine au XVIIe siècle, et que si les jésuites n'avaient pas donné aux Chinois de bons canons, bien la Chine aurait été dépecée plus tôt, elle a encore été dépecée à la fin du XIXe siècle, puisqu'on a pris plusieurs provinces que les Chinois, pour l'instant, ne réclament pas. Voilà donc les théâtres de la guerre. Alors, quels sont les buts de guerre? Longtemps, la Russie a été attaquée, ça a été une guerre défensive. Mais en même temps, la légitimité de la guerre faisait que la Russie était titulaire pour une expansion universelle. Pourquoi ? Parce qu'elle était orthodoxe, elle était même le seul royaume orthodoxe sur Terre, après la chute de Constantinople, et du coup le seul royaume chrétien. Par conséquent, une expansion indéfinie aurait été légitimée par le souci de répandre la vraie foi, alors qu'elle n'était pas. Elle n'existait pas chez les païens et qu'elle était pervertie chez les occidentaux. Cette expansion, à partir d'un certain moment, s'est déroulée avec une rapidité, un succès extraordinaire. Et petit à petit, le but de la guerre n'a pas été de convertir au vrai christianisme, mais simplement d'étendre ce territoire. Le territoire est devenu une valeur sacrée. Et aujourd'hui, que toutes les valeurs, malgré les valeurs orthodoxes qu'on essaye de ressusciter, sont extrêmement superficielles et peu senties parmi les Russes, l'amour du territoire, l'amour de la carte du territoire, l'amour des onze fuseaux horaires, qui gênent énormément les Russes, mais ils sont soigneusement maintenus parce que ça fait partie de la mémoire russe. Et vraiment, les Russes aujourd'hui ne supportent pas qu'on supprime un pouce de ce territoire. Ils ne font pas la paix avec les Japonais à cause de deux petites îles qu'ils ont volées en 1945, qu'ils refusent absolument de redonner aux Japonais, ce qui fait que la guerre dure toujours, théoriquement, qu'il n'y a pas la paix. Et vraiment, le peuple russe préférait mourir que redonner aux Japonais ces deux îlots. Alors, quels sont les moyens maintenant? Troisièmement, quels sont les moyens de cette guerre? Normalement, les Tatars, c'était des gens très organisés. C'était des gens qui avaient un droit et qui avaient surtout, qui savaient très bien faire la guerre. Ils avaient c'était des cavaliers, essentiellement, des petits chevaux qu'ils montaient beaucoup mieux que les Occidentaux et que les Russes. Ils avaient l'étrier mince, qui ne gêne pas la jambe, ils montaient court, ce qui soulageait l'arrière du cheval. Ils mettaient les chevaux sur un mors de filet beaucoup moins fatigant pour le cheval que les mors de bride qu'employaient les occidentaux. Ils n'avaient pas comment s'appellent ces roulettes qu'on met au bout des chevaux, enfin les éperons. Ils conduisaient le cheval avec une cravache, donc le cheval arrivait beaucoup plus frais sur le champ de bataille. Et ensuite, les Tatars se débrouillaient pour avoir deux chevaux. Ils emmenaient un cheval bridé sur lequel ils montaient, et puis un cheval de réserve qu'ils engageaient le jour de la bataille. L'armée d'Ivan en face, c'était une armée occidentale pauvre. Ils avaient le home, ils avaient l'épée et la lance. Ils montaient à l'occidental, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très agiles. Donc devant ces Tatars très agiles, qui procédaient par grands raids, ils étaient obligés de mettre des barrières très très longues, des systèmes de défense qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres, ce qui était très au-dessus des moyens de la monarchie moscovite, qui était une monarchie pauvre et peu éduquée. Donc, jusqu'à ce que l'armée du tsar ait eu une mousqueterie et une artillerie, les Tatars étaient normalement vainqueurs. Alors, ils n'occupaient pas, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, mais ils raflaient les esclaves, enfin les paysans par milliers, et ils prélevaient un gros tribut. Et même une fois, dans le cas de... Ils ont complètement asservi le centre du royaume, le centre du royaume russe, hein, la principauté de Moscou. Ils ont fait du grand prince de Moscou une sorte de vizir. Ils l'ont aidé à réduire les principautés autour de Moscou. Et ça a duré comme ça jusqu'au XVe siècle. Après ça, les Russes ont retrouvé leur indépendance. Alors, quand il s'est agi de faire la guerre à l'Occident, Ivan le Terrible a été de défaite en défaite. La guerre de Livonie s'est terminée en désastre, et Ivan est devenu fou, il a réduit en cendres une partie de son royaume, et ça a été le temps des troubles. Ça a duré pendant quelques dizaines d'années, jusqu'à ce que Pierre le Grand prennent le pouvoir. Et là, il a introduit une révolution. Qu'est-ce qui manquait dans les batailles entre la Pologne, la Suède et la Russie ? C'était une certaine discipline de l'armée. Les armées étaient désordonnées, le système de commandement n'était pas bon. Pierre le Grand a aussitôt introduit l'uniforme à l'occidental et il a organisé les soldats en leur donnant aussi un uniforme, en leur donnant tout le monde était esclave dans le système de Pierre le Grand, mais les soldats l'étaient particulièrement, ils étaient désignés par leur maître, ils étaient envoyés à l'armée pour 25 ans, hein, ou 26 ans plus exactement, et là ils étaient soumis à une discipline assez dure. Quand Catherine II a supprimé la peine de mort, on s'est rabattu sur d'autres châtiments, on a arraché les narines, on a coupé les oreilles, et surtout on passait les soldats à la baguette. La baguette faisait, c'est la tige métallique qui est sous le fusil, et on les faisait passer entre deux rangs de soldats qui donnaient un coup de baguette chaque fois. Le soldat arrivait déchiqueté et il mourait. Donc c'était un châtiment redoutable. Et alors les officiers, parce qu'il a encadré là, cette armée, qui était vraiment une horde au début. Les soldats, il les a pris dans la petite noblesse, dans la toute petite noblesse, et qui n'était pas encore une noblesse dans la mesure où le noble pouvait encore être fouetté. C'est bien que Louis XV se demandait si le noble russe méritait le titre de noble, puisqu'il n'était, il pouvait être fouetté, ce qui était inimaginable aux yeux des Occidentaux. Mais très vite, il a mis ces nobles, disons, dans les écoles militaires. Et dans ces écoles militaires, ils apprenaient peu à peu d'abord les techniques modernes de la guerre et les manières européennes. Il y a eu des manuels qu'on a distribués très vite dans lesquels les soldats apprenaient à se servir d'un mouchoir, à se servir de fourchette, à se servir de couteau, à saluer, à ôter son chapeau quand il le fallait, etc. Ça a été très long. Ça a été très long. Je me souviens, quand j'étais en Russie, j'avais défini le mot russe kulturnoï comme ceux qui savent l'usage de la fourchette. Et effectivement, à côté de moi, il y avait un monsieur qui ne savait pas l'usage de la fourchette encore. Il entassait son assiette avec son couteau, mais il ne connaissait pas encore l'usage de la fourchette. Alors, très vite, ces écoles militaires se sont perfectionnées. Ils ont appris les bonnes techniques de l'artillerie, les bonnes techniques de la tactique, et très vite, l'armée russe a été bonne avec les moyens qu'elle avait. Elle a pu avoir des victoires très vite. Nous allons en reparler. Sous Catherine II, le noble n'avait plus le droit d'être battu. Enfin, avait le droit de n'être pas battu. Et ça a été un changement. Catherine II a créé une véritable noblesse à l'européenne, quelques milliers de familles, mais qui apprenaient à bien se conduire, à se battre en duel, à danser, à faire toutes les choses que faisaient les nobles européens. Et vous savez que dans les guerres dans l'Empire, les officiers russes ont fait bonne figure. Ils étaient reconnus comme des officiers, comme les autres. Voir le livre, la fameuse nouvelle de Kleist, hein, sur... comment elle s'appelle cette nouvelle de Kleist peu importe, on retrouvera. Bien. Alors, c'est Pierre le Grand qui a créé l'économie de guerre. Et très vite, il a établi des arsenaux très efficaces. L'artillerie russe est devenue vite bonne. Et les soldats et les mousquets n'étaient pas plus mauvais, ou les fusils n'étaient pas plus mauvais que les autres. Et ça a introduit, d'ailleurs, des révolutions économiques infinies. Disons que l'économie de guerre a vraiment précédé l'économie civile pendant au moins une cinquantaine d'années. Et une originalité de la Russie, c'est le rôle de la diplomatie et des services secrets. Ça, c'était vraiment, elle l'a employé de façon massive, parce qu'il savait que faire la guerre comportait des risques, et qu'on pouvait perdre les batailles, et qu'il fallait bien préparer quand même par une préparation politique et diplomatique l'expansion russe en direction de l'Ukraine, en direction de la Pologne, en direction des pays baltes, dans toute la zone occidentale de la Russie. La méthode, qui a duré très longtemps, puisqu'elle a duré sous Lénine, sous Staline, etc., ça consistait à profiter des conflits intérieurs aux nations sur lesquelles on avait un but de conquête. Et ce groupe dissident appelait à l'aide fraternelle, si l'on peut dire, du peuple russe. C'est comme ça qu'on a conquis l'Ukraine, puisque vous aviez une énorme insurrection anti-polonaise conduite par des cosaques qui voulaient devenir polonais. Mais quand ils ont été battus par les Polonais, ils avaient le choix entre se soumettre à la nation polonaise, se soumettre à l'Empire ottoman, ce qui était aussi une formule tout à fait à considérer. Et puis, ils ont fini par tomber sur la Russie. Et la Russie a immédiatement entré, a pris la rive gauche du Dniepr, a envoyé les Cosaques construire Pétersbourg. Il n'en est pas revenu beaucoup. En Pologne, même méthode. On construit un groupe opposant, ce qu'on appelait les Rokosz-Tarnowski, qui appelle à l'aide la Russie pour défendre ses libertés. Vous savez que la Pologne était un pays très jaloux sur les libertés. Eh bien, la Russie est entrée en Pologne, et elle le devait, parce que pour tenir l'Ukraine, il fallait, après ça, conquérir la Pologne. Bon, elle l'a fait, sans beaucoup de guerre. Et c'était ce qu'il voulait. Avec Pierre le Grand, elle s'est arrangée également avec l'aristocratie allemande des pays baltes, qui trouvait que les Suédois dont ils dépendaient étaient vraiment trop gentils avec leurs paysans. Ils ont préféré la discipline russe, donc ils se sont soumis à la Russie pour des raisons. Alors là, vraiment de classe, on ne peut pas dire autrement. Alors, ce système entre de temps en temps en crise. Et cette crise devient aussitôt une crise de l'État. Par exemple, les guerres conduites par Ivan le Terrible, c'était les guerres de Livonie contre la Suède et la Pologne, sont terminées par de cuisantes défaites d'Ivan le Terrible, et l'État est tombé en morceaux. C'est ce qu'on appelle le temps des troubles, qui a duré pendant très longtemps. Jusqu'à ce que Pierre le Grand naisse, prenne le pouvoir et entame sa révolution. Mais les premières guerres de Pierre le Grand, c'est la défaite extrêmement cuisante devant Charles XII, c'est Narva. Et Pierre le Grand, d'ailleurs, avait compris qu'il ne pourrait pas affronter vraiment les armées occidentales. Il a laissé tomber son armée à Narva, qui a été complètement détruite, mais lui avait filé, ce qui a été mal considéré par l'Occident, comme pour sa gloire. Il a refait une armée, il a réussi à faire entrer Charles XII jusqu'au fin fond de la Crimée, où Charles XII n'a pas trouvé les secours nécessaires. L'armée de Charles XII l'armée a été anéantie. Et donc la révolution a pu se continuer. Encore qu'elle a failli, il a voulu prendre la Crimée, et là, il s'est trouvé enfermé par les Ottomans, et il n'a plus se tirer d'affaires qu'en vendant tout. Vous voyez, la méthode diplomatique, il a vendu les bijoux de sa femme, tout, il a vendu tout, et le pacha a levé le siège, et je crois qu'il s'est fait un peu empaler après, parce que le sultan n'a pas trouvé ça très bien. La guerre de Crimée, en 1856, a abouti aux réformes d'Alexandre II. Et c'est souvent le souci militaire, le souci impérieux, prioritaire d'avoir une bonne armée qui déclenche, disons, les réformes en Russie. La guerre japonaise a abouti également à cette révolution de 1905 et à un certain changement dans le système de gouvernement, puisqu'on a créé un début de système représentatif. La Russie, 50 ans après la Suède ou l'Autriche, n'est-ce pas? La guerre de 14 a conduit à l'écroulement général. Et en 1989, c'est de constater qu'elle ne pouvait absolument pas tenir tête à l'armée américaine qui a entraîné l'effondrement que nous connaissons, la dissolution de la Russie et sa reconstitution à laquelle nous assistons en ce moment. Cinquièmement, la société. Bien, la société russe voulait, selon l'attention de ces tsars, devenir une société administrative, un gouvernement administratif et militaire, sur le modèle, au fond, lointain de ce qu'avait fait Louis XIV. Louis XIV avait créé une monarchie administrative et militaire, rationnelle, et ça s'était répandu d'ouest en est. Vous savez, les Prussiens ont fait pareil, Joseph II, Marie-Thérèse ont fait pareil, c'était le tour de la Russie. Seulement, le tour de la Russie, c'était un peu différent. Ce n'était pas une monarchie administrative et militaire, c'était une monarchie militaire dont a dépendu l'administration. On a d'abord refait l'armée, et puis après ça, on a refait l'administration complètement pour que ce soit en accord avec l'armée. Mais il y a toujours eu une priorité de l'armée, du système militaire, sur la société civile. Alors, la construction de la noblesse, elle s'est faite non pas de façon... Il fallait la créer. Elle ne s'est pas faite, si vous voulez, sur la base d'un monde de haute noblesse, de chevalerie préexistant, comme c'était en Occident. Il a fallu créer des écoles spéciales et des écoles hiérarchisées, les unes simples, qui conduisaient à des grades petits, mais qui donnaient quand même la noblesse de vie, et puis les écoles pour les écoles privilégiées, les écoles des gardes, les écoles de... etc., qui était, au contraire, dans laquelle on donnait une éducation très complète. Et là se formaient, si vous voulez, des idéaux de noblesse. Avant, on se battait à coups de pied. Après ça, il y a eu le duel, qui a joué un très grand rôle, justement, dans la formation chevaleresque, si vous voulez, de la Russie. Les romans de Tolstoï vous présentent cette noblesse et ses mœurs. Hein, quand vous lisez Anna Karenine, qui a un côté... disons, roman de garde, dans la mesure où il s'agit des mœurs, disons, d'une petite couche privilégiée, mais qui vivait exactement comme les couches privilégiées du monde allemand ou du monde français et anglais. On y parlait les langues, le français, l'anglais, l'allemand, de plus en plus, et ils avaient une éducation complète. Et alors, quand on voit la Russie à travers ces romans-là, on ne la voit pas, parce que c'était même pas 2% de la population russe qui vivait là-dessus. Mais ça a très bien réussi. Et cette noblesse était indistinguable, ou à peu près, il fallait de bons yeux, de la noblesse occidentale. Et cette noblesse, évidemment, a été anéantie en 1917. Et pas seulement après le putsch d'octobre, mais dès février. Et déjà, déjà dans les dernières années d'Ancien Régime, il était en voie de dissolution. Il y a une parole très célèbre d'un grand historien russe du XIXe siècle, Kloutchevski, à propos de Pierre le Grand. Il disait que Pierre le Grand souffrait d'une, le programme de Pierre le Grand souffrait d'une contradiction fondamentale. Il voulait que l'esclave, tout en restant esclave, agit librement et hardiment. C'était une nécessité parce que les armées occidentales étaient tenues par des gens rationnels, cultivés et possédant une grande dose d'initiative. Alors, comment trouver en Russie des gens analogues? Eh bien, c'était un problème, et c'est ce que Catherine II avait commencé à faire en créant une véritable noblesse, et puis qui s'était développée un peu, pas en nombre, mais en qualité. Mais cette noblesse qu'on instruisait à l'européenne commençait à porter avec elle des idées européennes, et très vite, elle est entrée en contradiction avec le système moscovite, avec le système pétrovien, qui était extrêmement sable, on ne pouvait pas. Alors vous avez une transformation d'une partie de la noblesse en intelligentsia, et avec tout ce qui traverse le XIXe siècle, avec toute la contradiction entre cette petite couche devenue opposante et l'ensemble de l'État russe. Et on ne peut pas s'en passer. On peut vous l'écrire, par exemple, le tsar Nicolas Ier était un tsar qui a voulu être un second Pierre le Grand, qui était un peu plus cultivé, un peu moins sauvage, mais qui voulait perfectionner le système de Pierre le Grand. C'était un maniaque de l'armée, c'était un maniaque de la manœuvre, c'était un maniaque des grandes cérémonies sur les avenues de Pétersbourg, des cérémonies militaires. Et puis, malheureusement, on a vu ce qui s'est passé dans la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, les beaux régiments impeccables ne se sont pas, d'ailleurs, se sont très bien comportés, mais n'avaient pas quand même, ne pouvaient pas tenir le coup devant les armées de France et d'Angleterre. Et cette contradiction demeure. Si on veut que la Russie soit puissante, et c'est le principal souci de l'État russe, quel qu'il soit, il faut garder cette couche, parce que si on la supprime, comme souvent les gouvernants pré-bolcheviques et bolcheviques en ont eu la tentation, eh bien la Russie n'est plus techniquement capable de soutenir une guerre. Et par exemple, le travail de Lénine et de Staline, enfin du gouvernement bolchevique, ça a été de supprimer toute opposition de la part de cette couche, mais sans pouvoir la détruire complètement, parce qu'on a besoin de physiciens, on a besoin de mathématiciens, on a besoin de faire marcher une bonne armée, et pour cela de construire de bonnes armes. Et l'armée russe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été la meilleure possible, étant donné les effectifs, les cadres, qu'on avait pris un coup quand même dans les dernières années de Staline, mais il en restait suffisamment pour que cette armée assez primitive soit bien armée pour ce qui est, sauf les Américains donnaient les camions, le sanitaire, etc. Ça, c'était, on laissait, et la nourriture et les uniformes, mais par contre, les tanks russes étaient très bons, plutôt meilleurs que les tanks allemands. L'artillerie russe était excellente, les types d'avions étaient bons, et finalement, avec des pertes immenses, ben, ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors, ben, ça continue comme ça. Après la guerre, on a essayé de reprendre en main cette couche qui avait vu l'Europe. Et il a fallu faire de nouvelles déportations, les envoyer en Sibérie, etc. Mais on ne pouvait pas tout à fait s'en passer. C'est ce que d'ailleurs Solzhenitsyn montre. Il est dans une charashka, c'est-à-dire des camps spéciaux pour gens compétents. Et on les fait travailler à des buts militaires, parce que finalement toute la science russe a été concentrée sur le militaire, mais ça a marché quand même. 5 ans après la bombe atomique américaine, la Russie, à force d'espionnage et de très bons ingénieurs à l'intérieur, avait sa bombe atomique, ce qui est un exploit tout à fait remarquable. Je crois que Poutine est encore dans cette situation. Il a besoin de cette couche qui doit être préservée. Et cette couche qui doit être préservée est en train de lui tailler des coupières. Et c'est pour ça que son pouvoir ne sera jamais tout à fait solide, bien qu'il puisse encore durer très longtemps. Voilà, écoutez, je crois que c'est très sketché ce que je viens de dire, mais je pense que ça vous permet d'avoir à peu près le tableau complet.
Vous venez d'entendre la communication d'Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Son intervention s'intitulait « La Russie tsariste et la guerre » dans le cadre du colloque international « Guerre et politique » initié par l'académicien Jean Bechler. C'était le 18 janvier 2013 à la Fondation Simone et Cino del Duca. Retrouvez prochainement l'ensemble des interventions de cet exceptionnel colloque international sur Canal Académie.